cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 février 2001 à Saint-Jean-d'Art.
Une question d'hier qui est restée en pause. Pouvez-vous préciser la différence entre acte et mode? Pourquoi, par exemple, on dit que le mode de la substance est de subsister et non pas que c'est son acte? Est-ce que purement une confusion des principes de parler de l'acte de la substance? Si oui, qu'est-ce qui permet de parler de son mode? Oui, il faut préciser ce langage, parce que, évidemment, vous voyez, il y a le passage du grec au latin, il y a le passage du latin aux langues vulgaires. C'est très intéressant de regarder quelqu'un comme Cicéron qui montre ce passage du grec et latin. C'est pas philosophique, c'est pas très philosophique, c'est plutôt simplement le langage. Et c'est vrai, chaque langue a son génie. Et certaines distinctions tout à fait propres à telle langue ne se retrouvent pas tellement dans telle autre langue. Mais la réalité est la même. Si le latin pensé par un philosophe doit regarder la réalité, le grec pensé par un philosophe rejoint la réalité. Donc c'est en regardant ce qu'il signifie qu'on pourra se retrouver. Alors, l'acte est au niveau de l'être. C'est première détermination de la fin de l'être, le terme. Donc, c'est lié à l'être. Quand je dis acte, je dis être en acte. Tandis que mode, je ne dis pas être en mode. Vous voyez tout de suite la distinction, j'espère. C'est que l'acte est tout à fait premier, c'est une convertibilité avec l'être. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est acte. Tout ce qui existe est acte. Et je ne dis pas un mode, je suis au niveau de l'acte. Je prends mode. Mode veut dire une détermination qualitative. Mais, vous voyez, c'est du côté de la détermination. La substance subsiste. La substance, c'est la détermination dans l'acte. Et cette détermination dans l'acte peut avoir des déterminations plus ou moins précise. Quand je montre que la substance subsiste, je montre la substance non plus comme principe, mais dans la réalité. Et je dis, la substance existe dans la réalité. C'est plus le principe saisi par l'intelligence. C'est la substance dans la réalité. Dans la réalité, la substance a ce caractère particulier de faire que l'être a son autonomie. L'être a son autonomie par la substance. Il n'a pas son autonomie par les accidents. Mais il a son autonomie. C'est pas le principe qui a l'autonomie, puisque le principe, il est principe, donc il est premier. Il a son autonomie par lui-même. C'est bien évident. Au niveau signification. Mais au niveau signification, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Tandis que c'est au niveau de la réalité. Quand je parle de la substance subsiste, je regarde la substance dans la réalité qui subsiste, elle permet à l'être d'avoir son autonomie. J'ai mon autonomie grâce à mon âme. Mon autonomie dans l'être. Je subsiste en moi, dans mon être. C'est pas mon voisin qui me fait subsister. Je subsiste grâce à la substance. Alors vous voyez, je regarde la substance, j'allais dire, dans son rayonnement au niveau de l'être. Il donne cette autonomie, il subsiste. Il existe percé, c'est subsiste. Je ne dis pas, par exemple, que l'acte subsiste. Ça n'aurait aucun sens de dire que l'âme subsiste. Tandis que je pourrais dire que la substance permet à l'acte de subsister pleinement, c'est-à-dire d'être pleinement, de s'épanouir parfaitement. Alors vous voyez, il y a déjà un rapport de la substance qui est dans la réalité, vis-à-vis de l'acte dans la réalité. C'est l'acte, la substance subsiste grâce à l'acte d'être. Elle appelle l'acte d'être. Et la subsistance, c'est par rapport à l'existence. La substance subsiste par elle-même. Vous voyez, c'est tout à fait différent que le point de vue de l'acte. Ça regarde une manière d'être, son autonomie. Je ne dirais jamais qu'un accident subsiste, je dirais un accident inerte. Il existe en étant reçu dans le sujet. Donc, il s'appuie sur le sujet. Il est relatif au sujet qui le reçoit. Tandis que la substance n'est pas relative à un autre, elle subsiste. Donc vous voyez, c'est très différent quand on regarde ce que signifie le mode d'être subsisté et le point de vue de l'acte. Mais dans la réalité, la substance subsiste, donc c'est par rapport à l'acte. Il y a une relation entre subsister et l'acte. Mais l'acte est du côté du principe, principe final, terminal. La subsistance, c'est une manière d'être. Je veux dire, le bodh, c'est une manière d'être. D'une façon générale, quand je dis par exemple, je prends un autre exemple, pour que vous compreniez. Quand je dis par exemple, l'intelligence et la raison, mon intelligence humaine existe dans ce mode particulier qu'elle raisonne. Mon intelligence humaine raisonne. C'est sa manière humaine d'exister. L'intelligence de Dieu ne raisonne pas. C'est sa manière divine d'être. Son mode, sa manière. Manière l'intelligence est en acte par le raisonnement. Et l'intelligence est en acte par la contemplation. L'acte propre de l'intelligence divine, c'est sa contemplation. L'acte propre de mon intelligence qui raisonne, c'est de raisonner. Vous voyez ? Donc, sa manière d'être me fait comprendre comment il existe. Il existe de cette manière particulière. Quand je regarde les attributs de Dieu, ce n'est pas des attributs, c'est des manières d'être. Dieu existe omnino simplex, tout à fait simplement. Il existe perfectissimum, d'une façon tout à fait parfaite. Il existe comme summum bonum. Oui, je qualifie cette manière d'être, cette manière d'être bon, cette manière d'être parfait, cette manière d'être simple, des manières d'exister. Ce n'est pas des principes, c'est des manières d'exister. Alors on a dit attribut, il n'y a pas d'attribut en Dieu puisque tout est substantiel. Alors j'espère que vous voyez la différence. On dit le mode de la substance, c'est de subsister, et non pas que c'est son acte, c'est sûr. L'acte de la substance, si je prends la substance comme une réalité, son acte c'est d'exister. Est-ce purement une confusion des principes? Des principes de parler de l'acte de la substance. Non, c'est simplement on précise quelque chose à la différence de l'accident, la substance subsiste. Elle existe par elle-même. Si oui, qu'est-ce qui permet de parler de son mode ? Son mode, c'est sa manière d'être. Et je parle de son mode parce que justement, la substance, je peux la regarder en tant qu'elle est pensée. En tant qu'elle est pensée, elle ne subsiste pas. Elle subsiste dans mon intelligence. Mais elle ne subsiste pas en elle-même. Parce qu'elle est saisie selon son intelligibilité. Elle saisit comme un principe. Un principe que je pense. Donc, il subsiste dans mon intelligence. Son mode, c'est de subsister dans mon intelligence. C'est-à-dire, c'est pas subsister réellement. Et je ne parlerai pas de subsistant dans mon intelligence, je dirais tout simplement qu'elle est pensée. Mais en réalité, c'est que elle a un mode intentionnel. Elle n'est pas réellement. Quand je pense à substance, je ne fais pas que la substance existe. Tandis que Dieu, quand il pense à substance, il peut la penser dans sa contemplation. Il pense à mon âme. Tu as pensé à mon âme. J'en suis sûr. Tu as pensé à mon âme dans sa sagesse. Il a pensé à mon âme. Et il a créé mon âme. Et quand il a créé mon âme, il a fait que mon âme subsiste dans mon corps. Elle ne subsiste pas par elle-même. Elle subsiste dans mon corps. Et parce que subsistant dans mon corps, elle est en acte dans mon corps. Vous voyez, je passe de la subsistance à l'acte. Et je sais très bien qu'en faisant ça, je ne regarde plus la substance, je regarde l'acte. Tandis que quand vous parlez du mode, vous regardez la substance. C'est petit à petit, quand on s'habitue à penser au niveau philosophique et à penser les différents premiers, on comprend. Après avoir vu, alors maintenant, nous continuons en cours. Je change de vitesse. Après avoir vu les modes particuliers de l'acte, l'acte vu du côté de l'être, je l'ai découvert là, l'acte d'être. Qu'est-ce que c'est que l'acte par rapport à l'être ? C'est son terme, c'est sa fin, c'est l'être pleinement lui-même. Il n'y a rien au-dessus de l'acte. Et tout ce qui n'est pas acte est ordonné à l'acte. Voilà ce que je veux dire, hein, quand je dis l'acte est la fin de l'être. Principe comme terme. C'est le principe final. Il est terme. Il n'y a rien au-delà de l'acte. Quand je dis acte pur, je veux dire Dieu. Mais tout en acte, il n'y a pas de potentialité en Dieu. Et c'est pour ça que c'est très équivoque de parler de l'essence de Dieu, si vous dites l'essence est ordonnée à l'exister. En Dieu, l'essence subsiste. Acte pur. Mais je saisis l'acte avant de poser l'existence de Dieu. Quand je pose l'existence de Dieu, je ne découvre pas un principe de l'être. Je découvre l'être parfait, premier, cause de tous les autres êtres. Parce que quelqu'un qui disait, c'était au Canada, que la découverte de l'acte, c'est la découverte de Dieu. Non. Je découvre l'acte comme un principe d'être. La fin. La finalité est un principe d'être. Donc, je découvre l'acte au niveau de l'être. Je peux me poser la question au niveau de l'esprit. Que devient l'acte ? Quel est l'acte de l'esprit ? L'esprit, pour moi, c'est mon intelligence et ma volonté. Mon intelligence et ma volonté. Mon intelligence s'actue et commence d'actuer par l'être, ce qui est principe d'existence. Et l'intelligence cherche à analyser l'être en tant qu'être. L'intelligence n'est pas l'être subsistant. Mon intelligence n'est pas ma substance. Je serai Dieu. Dire que mon intelligence est substantielle, c'est dire que je suis Dieu. C'est Hegel. Mon intelligence participe à l'intelligence de Dieu. Qui, elle, est substantielle. Mon intelligence n'est pas ma substance, n'est pas mon être. Mais mon intelligence est une qualité de mon être spirituel. C'est une faculté, une qualité qui me permet de connaître l'être. Connaître l'être, ce n'est pas m'identifier à l'être, puisque je connais toujours selon le mode intentionnel. Si mon intelligence était substantielle, il n'y aurait pas d'intentionnalité. En Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité. Dieu est Dieu. Il est parfaitement lumière. Mais je n'en parle pas encore maintenant, au point de vue philosophique. J'étudie l'être. J'étudie l'acte au niveau de ma pensée. Au niveau de ma pensée, mon acte du côté de la pensée, du côté de l'intelligence, c'est la vérité. Mais comme cette vérité qualifie ma pensée est vraie. Ce que je vous dis est la vérité. Et c'est une vérité. C'est une vérité de dire que l'intelligence, mon intelligence n'est pas substance. C'est la grande erreur des platoniciens de considérer que l'intelligence est substance. L'intelligence humaine. C'est l'erreur pratiquement de Hegel. Son intelligence, c'est son être. Je ne sais pas comment il dort, mais son intelligence, je présume, doit s'arrêter pendant qu'il dort. Alors si elle s'arrête, qu'est-ce que c'est son être ? Et dans la potentialité, parce qu'il se réveille le matin. Et je me réveille quand je pose un acte d'intelligence, normalement. Je peux continuer de dormir et me lever. Et puis je reste en imagination. Et je ne suis pas éveillé quant à mon intelligence. Vous êtes éveillé à votre intelligence quand vous posez un acte de foi. Quand vous faites oraison, poser un acte d'intelligence, puisque vous posez un acte de foi. Et vous ne pouvez pas poser un acte de foi sans que l'intelligence s'émeut, s'actue. Votre intelligence est actuée par la foi. Et quand votre acte de foi est vraiment un acte de foi, vous avez pleinement conscience que c'est un acte de foi, votre intelligence s'actue au point de vue de l'être. Puisqu'elle est actuée vis-à-vis de Dieu. Donc elle est actuée du côté de l'être. Mais je ne m'arrête pas à l'être, je m'arrête à Dieu. Quand je m'arrête à Dieu, Dieu est, je suis. Quand vous faites un acte de foi, au début de votre oraison, vous actuez votre intelligence. Quand vous vous mettez à manger, vous actuez quoi ? Votre vie végétative. Jusque-là, elle était un peu somnolente. Hein. C'est pour ça que celui qui dit « j'ai absolument besoin du café » pour être éveillé. Je connais quelqu'un qui me dit, si je ne prends pas mon café tout de suite en me levant, je suis endormi. Est-ce que c'est juste ? C'est un petit raisonnement psychologique. Hein. J'ai besoin du café pour me sentir éveillé. Peut-être, vous vous sentez éveillé, mais vous n'êtes pas éveillé nécessairement. Parce qu'on peut se sentir éveillé et ne pas être éveillé du tout. On reste dans le sentiment agréable de prendre son café le matin. Si vous faites un acte de foi, ah, vous êtes éveillé. Si la première chose que vous faites, en vous réveillant, c'est de prier la Vierge Marie en lui offrant toute votre journée. Vous êtes éveillé. Beaucoup plus que par le café. Beaucoup plus. C'est ça qui est merveilleux. Hein. Parce que s'il n'y avait pas la foi, jugement d'existence en me levant, oui, je touche mon lit, il existe, oui, je suis réveillé d'un cauchemar, j'avance d'un cauchemar, je m'aperçois que bon, c'est de la pure intentionnalité, mon rêve. C'est pas réel. Grâce à Dieu, il y avait le gros chien, mais il est disparu, il n'est pas là. Par un acte de foi vigoureux, un acte de foi solide, vous êtes éveillé. Quand vous prenez votre petit déjeuner, c'est votre vie végétative qui s'éveille. C'est pas commode, pas commode de prendre son petit déjeuner quand on dort. Vaut mieux pas essayer. Vous êtes éveillé. Vous vous éveillez dans votre vie végétative. Vous voyez, vie de l'intelligence, vie végétative. Puis après, vous vous mettez à travailler. Ah, travail peut-être manuel. Vous mettez en ordre vos cellules. Vous mettez en ordre votre lit. Vous travaillez pour ça. Ça travaille. La preuve, c'est quand on a la paresse, on ne fait pas son lit. On balise la cellule. Et puis, travail intellectuel. Travaillez. Vous vous actuez. Donc, vous voyez la recherche que nous faisons. Hein. Que devient l'être en acte dans l'esprit ? La vérité. Et comme le vrai dans ma pensée, c'est la conformité de ce que je pense avec ce qui existe, je suis vrai quand j'affirme que cela existe. La réalité est donc mesure de mon intelligence vraie. Conformité avec la réalité. Et c'est pour ça que je considère que la réalité est acte. Elle est vraie. Le vrai de l'être actue mon intelligence pour permettre à mon intelligence d'être dans la vérité. Et être dans la vérité fait que j'explicite ce qui, dans le vrai, ce qui, dans la réalité, demande d'être explicité par ma pensée, de sorte que ma vérité intellectuelle a quelque chose de plus que le vrai ontologique. Sauf si je découvre Dieu, je découvre alors un être qui est la vérité parfaite. Plus actué que mon vrai. Et je découvre le vrai, la vérité, avant la découverte de Dieu. Au point de vue volontaire, j'aime mon ami. C'est quelquefois la manière de me réveiller. Je me réveille, tiens, mon ami se réveille, je lui dis bonjour. Bonjour. Je ne vais pas le trouver, non, non. Je lui dis bonjour dans mon cœur. Je lui dis un petit salut, je lui dis bonjour. J'actue ma volonté. Je fais un acte d'amour, je l'aime. et mon amour que je porte en moi provient de mon ami qui est source de mon amour pour lui. Je retrouve des deux côtés, tant du côté de l'intelligence que du côté volontaire, que ce que je porte en moi au point de vue connaissance, que je porte en moi au point de vue amour, demande, provient et demande d'être vers la réalité vraie, vers la réalité bonne. Quand je pense à mon ami, je sais que mon ami est source de mon amour. C'est grâce à lui que j'aime. Et je peux très bien, en l'aimant, actuer quelque chose qui, en lui, est encore mal actué. Sa bonté est lié à un caractère de chien. Ça existe, hein. Mais quand même, il est bon. Mais il y a des défauts en lui. Et dans la réalité, sa bonté n'apparaît pas toujours. C'est pour ça que pour son ami, sa bonté apparaît, mais pour l'autre. Si je suis grand ami de cette personne, oh, ce qu'elle a un mauvais caractère. Et tu arrives à l'aimer? Mais oui, elle a très bon caractère avec moi. Mais elle a très mauvais caractère pour l'autre qui ne l'aime pas. Et cependant, il est bon. Vous voyez, c'est très curieux. Tant pour le vrai que pour la bonté, mon intelligence et ma volonté, par la connaissance et par l'amour, explicite quelque chose qui, en lui, demeure lié à des quantités de choses qui fait que son vrai, que sa bonté n'apparaissent pas toujours. Mais quand je le connais, quand je l'aime, j'explicite sa vérité et son amour et sa bonté. Nous avons donc trois modalités de l'acte. L'acte d'être, le vrai, la bonté. Je pousse plus loin mon petit déjeuner. Qu'est-ce qui l'actue en moi? Il actue en moi autre chose que quand je fais oraison, normalement. Il actue en moi autre chose. Il actue en moi ma vie végétative. Je pourrais m'en passer de ce petit déjeuner, mais ça me fait du bien. Il actue en moi mon appétit physique, biologique, et la digestion commence à assimiler ce petit pain, ce café au lait, ce que je prends, et je suis en acte dans ma vie végétative. Je me lève, je suis en acte dans ma vie, capable de bouger. Et j'étudierai tout ce qu'il faut pour pouvoir me lever et marcher. Si je suis très fatigué ou malade, j'ai une peine énorme de me lever. Je vois que c'est un labeur. Il n'y a pas qu'une seule cause pour me lever. Il y est impure. Et entre deux, il y a une vieille chute que j'ai faite il y a quelques années qui revient et qui m'empêche de me lever, qui est un arrêt. Dans ma vie humaine, il y a ma vie locative, je bouge, je marche, je m'actue en marchant. Je m'actue en faisant un exercice pour marcher. Et je vais ouvrir ma porte, elle est coincée, elle est dure, je fais des efforts, j'actue. Ma force, ça résiste, et je l'aurai. Et si je ne l'ai pas, je demande à quelqu'un, ouvre-moi la porte, on adonira. Cru. Il y a un acte de ma vie végétative. Le vivant, c'est celui qui se meut. Qui se meut extérieurement. Vous savez bien, c'est le langage des vieilles grand-mères. Ce petit, il est charmant, mais il ne bouge pas beaucoup, il n'est pas très vivant. Tandis que sa petite sœur, elle est très vivante. Elle en se remue tout le temps. On dit ça dans le langage courant. Hein. Quand il ne bouge pas beaucoup, il n'est pas très vivant. Quand il bouge, oui. Le vivant se meut, donc il s'actue dans son mouvement. Son mouvement, c'est son acte. J'ai donc une nouvelle modalité de l'acte, très différente des autres, très différente de celle de l'esprit, beaucoup plus limitée. Parce que le vivant de vue végétative, ben c'est assez limité la vue végétative. La vie corporelle, je suis limité dans un lieu, j'ai beau courir très vite, je dois changer de lieu, et je me fatigue. Tous les jours je m'éveille, tous les jours je m'actue. Cette manière d'être actué dans ma vie, c'est en moi-même que cela existe, dans l'immanence du vivant. Ah, c'est là la découverte propre du vivant, son acte est premièrement en lui et pour lui. Le vivant est terriblement égoïste. C'est pas un péché, hein, c'est une constatation. Le vivant ramène tout à lui. Vous voyez ça dans une forêt. Quand vous voyez un grand chêne, il faut au milieu de lui, autour de lui, un climat particulier. Et si vous connaissez bien les arbres, vous savez que tel arbre, tel climat. Les chênes ont un climat très particulier. Le sapin, climat tout à fait différent. Il attire lui et crée autour de lui un milieu. Donc, il est en acte pour créer ce milieu. Il y a toute une faune, et quelquefois une végétation autour de cela, particulière. Il y a certains animaux qui vont se reposer chez le chêne et d'autres animaux chez le sapin. Et il y a des vivants qui aiment mieux le chêne et qui vont plutôt dormir auprès d'un chêne qu'aller dormir auprès d'un sapin. C'est curieux, ça. Le vivant se meut. Le vivant réalise autour de lui un climat, un milieu, parce qu'il est vivant. Et plus il est vivant, il crée ce milieu autour de lui. Si au contraire, c'est un tout petit vivant, il va profiter du climat du grand vivant. C'est comme ça que les requins aiment bien se nourrir d'autres poissons. Et les autres poissons vivent dans le ventre du requin. C'est une manière de vivre. Le grand vivant absorbe le petit vivant. Et le vivant est terriblement égoïste. C'est lui. Et quand ce vivant n'est que des vies végétatives, vous savez très bien, pas la peine. Vous respectez ça. Vous ne créerez pas, vous ne planterez pas à côté d'un grand vivant un autre arbre, il est tout franc. C'est une charité remarquable. C'est intéressant de voir ça. Et vous voyez ça dans la vie végétative, vous voyez ça dans la vie animale, vous voyez ça en vous. Il y a deux petits morceaux de pain pour le petit déjeuner. Il vient se faire à côté de vous un cher ami. Et puis il vous prend votre pain sans rien dire. Hein? Alors, si vous êtes très vertueux, vous vous tairez. Parce que vous serez dans l'amitié avec lui. Alors, ce sera l'amitié qui vous empêchera de manger. Ça fait rien du tout. J'ai vu mon ami, c'est plus que de manger. Mais si vous n'êtes pas très vertueux, hein, laisse-moi un petit peu de pain. Oui, la vie végétative que nous portons en nous est terriblement égoïste. Peut-être cet égoïsme radical, fondamental, peut être dépassé par l'intelligence, par l'amour, mais ce n'est plus la vie végétative. La vie végétative en elle-même et pour elle-même, a cette espèce d'égocentrie, de tournelle, à cause de l'immanence. Vous voyez, cette qualité, le vivant ramène tout à lui. Et c'est beau, c'est important, il ramène tout à lui. Mais quand on voit que cela, alors ça devient terrible. L'immanence peut être un égoïsme forcené. Quand cette immanence est limitée, ça va. Mais si vous la laissez tout prendre, alors, il faut comprendre que l'acte dans la vie végétative, pure, dans la vie animale, le vivant comme tel, et même le vivant intellectuel, si la vie domine l'intelligence, domine l'esprit, je suis vivant dans mon intelligence. Et je puis très bien ne regarder dans mon intelligence que l'aspect vie. Je peux très bien, dans mon amour, ne regarder que l'aspect vie. Et je trouve cette immanence, cet égoïsme, ramener à soi quelque chose de fondamental. C'est très curieux, cela. J'ai donc un acte dans la vie, l'acte du vivant, limité. J'ai donc l'immanence qui fait que tout acte du vivant se ramène à l'impelegio. C'est pour moi. Je me repose dans mon bien. Mon bien au petit déjeuner, c'est mon petit pain. Je me repose dans mon petit pain. Je trouve qu'il est très bon. Et jalousement, je le regarde. Personne d'autre doit le prendre. Vite, on va le manger. Là, il n'y aura pas de danger qu'on reprenne. Il est mien. Et c'est vrai, il est mien. Mon assimilation fait qu'il est parfaitement bien. Au bout d'un certain temps, c'est mon bien. Il est transformé en moi. Mon acte, le petit pain actu, il se fait dévorer. Et quand il se fait dévorer, il n'actue plus. C'est le vivant qui l'actue. Il y a une lutte entre les deux. Parce que c'est bien évident. L'aliment actue le vivant. Le petit pain grillé, quand on a très faim, l'odeur. Parce que l'odeur joue beaucoup pour actuer. Et quand on a marché toute la nuit, qu'on arrive le matin dans un village et qu'il y a le boulanger, la seule lumière, c'est bon, on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose. On va un petit peu humer cette bonne odeur merveilleuse de petit pain frais. Un petit jeûne, on peut se contenter de ce déjeuner intentionnel. Le sensible ajoute à la vie végétative l'intentionnel. Alors, je peux, si le boulanger n'entend pas mon cri, me contenter d'humer cette odeur merveilleuse. J'ai pris mon petit déjeuner intentionnellement. Il faut le prendre de temps en temps intentionnel pour voir la différence entre le végétatif et l'intentionnel. Et on voit qu'en effet, c'est très réel, parce qu'à 10 heures, l'intentionnel est passé, et c'est le végétatif qui crie. Sur le moment même, l'intentionnel est tellement fort. Je veux dire, je suis un être spirituel, uniquement l'odeur du petit pain me suffit. Ah oui, vous n'êtes pas qu'un être spirituel, vous avez le corps. Et ça, c'est vrai. Le sensible, avec le sensible, commence un monde nouveau, l'intentionnel. Et c'est encore le vivant. Vous voyez, l'acte dans la vie, c'est très particulier, c'est l'immanence, l'entelekeia. Et l'entelekeia qui actue le vivant des vues végétatives et qui est actué par un autre, le petit pain. Il est actué par un autre. Donc, cet autre qui actue ma vie végétative, c'est l'acte qui vient actuer celui qui est en désir, en appétit, et qui ne possède pas, et donc en puissance. Donc vous retrouvez la distinction entre entelekeia et energeia. Le petit pain est energeia, il existe en acte, et il a cette capacité, surtout s'il vient d'être cuit, qui sort du four, d'éveiller en moi mon appétit, et je le mange. En mangeant, j'active ma vie végétative, energeia, mais dans l'immanence. Et mon petit pain, vous le caressez, tu seras très bien chez moi. Et il est en vous. Le vivant s'actue en gardant l'acte dans l'immanence. Vous voyez, c'est très important ça, de voir ça. Parce que ça fait comprendre comment, chez certains, ils le voient dans l'intelligence que le vivant. Et comme l'intellectuel, c'est un grand vivant, ils verront ce vivant d'une façon extraordinaire, dans l'immanence du vivant, l'immanence du sujet, ça vient de là. Dans ma vie végétative, je suis un acte dans l'immanence, pour moi, avec moi, en moi. Et l'acte de la réalité que j'ai dévorée, cet acte a été un acte qu'un moment extérieur à moi, qu'un moment. Très vite, je l'oublie. Il a existé. C'est la même chose. Pour le sensible, il y a eu une réalité qui m'a attiré, que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai senti, que j'ai touché. Il y a une réalité que j'ai touchée, que j'ai palpée, qui est autre que moi, qui a été vraiment acte et qui m'a actué. Et qui m'a permis d'être actué grâce à lui. Mais comme l'entelekeia, l'immanence du vivant, est si forte que j'oublie très vite la réalité qui m'a actué. Elle m'a actué pour moi. Et je reste dans cette affirmation que c'est pour moi. Donc, je vois là l'immanence de l'acte dans le vivant. Cette immanence a été, au point de départ, dépendante de l'acte energeia, de l'acte d'une réalité existante. Mais très vite, j'ai digéré. J'ai assimilé, et très vite, je n'ai plus regardé que ces assimilations. Alors, quand dans l'intelligence, je regarde le vécu c'est le digéré, c'est l'immanence, et je ne vois plus ce qui était avant le vécu, avant ce qui a été connu, avant ce qui a été aimé, et je demeure dans cette immanence, du vivant.